Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon se penche sur les délais post-pandémie dans les dossiers criminels et il nous parle de l'effet Jordan qui menace. Il dresse un parallèle entre le système de santé et le milieu juridique où les juges, comme les médecins, sont extrêmement bien traités financièrement alors qu'on fait face à des pénuries de petits personnels, si vous me permettez l'expression, qui gagnent près de 10 fois moins que les privilégiés de ces mêmes systèmes. Ensuite, il revient sur la loi 96 qui sera adoptée aujourd'hui, mais qui sera sans doute rapidement contestée. À quoi ressembleront les contestations? Mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
Bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Parlons d'un Scandinave maintenant. On est sur la piste des archives toujours. C'est la série que tu fais dans le Devoir à partir des archives, donc le voyage de Père Calme au Canada.
Oui, un voyage assez inattendu en 1749 en Nouvelle-France. Père Calme, c'est un Suédois. Lui, dans le fond, il est mandaté par l'Académie royale des sciences de Suède pour explorer un territoire neuf où on pourrait trouver des plantes que l'on pourrait ramener en Suède pour les faire croître et au bénéfice du royaume de Suède. À l'origine, on pense l'envoyer en Islande, au Groenland et même en Mongolie, en passant par la Moscovie, le nom qu'on donnait à l'époque souvent à la Russie.
Ouais.
Finalement, on choisit l'Amérique du Nord. Lui, il débarque d'abord à Philadelphie, dans les provinces anglaises de l'Amérique du Nord. Et de là, il passe en Nouvelle-France en 1749, ce qui est assez rare quand même de passer d'un empire à l'autre comme ça. Surtout qu'il arrive juste après la guerre de succession d'Autriche. On est un an après cette guerre-là qui précède la guerre de la conquête. C'est une guerre un peu oubliée qui se termine sur un match nul. Et en remontant le lac Champlain, il voit des vestiges carbonisés de la guerre. Donc, il est très impressionné. Il voit aussi des serpents sonnettes qui l'impressionnent et qui lui fait peur un peu. Et il atteint finalement le Canada de l'époque, en arrivant au fort Saint-Frédéric, à 200 km au sud de Montréal. Aujourd'hui, ça se trouve en territoire américain, dans l'État de New York, mais à l'époque, c'était l'entrée de la Nouvelle-France du Canada. Donc, toutes les plantes qu'il voit là-bas, autour du fort Saint-Frédéric, il leur donne des noms un peu canadiens.
Et ça s'appelle comment maintenant, dans l'État de New York?
Crow-Pointe, dans l'État de New York. C'est juste au nord du fort Ticonderoga.
Okay.
Donc, c'est un endroit on voit encore les ruines de ce fort-là, qui sont toujours en place aujourd'hui. C'est un petit parc, là, un peu pas très aménagé. On se présente là, il n'y a rien vraiment.
Puis Ticonderoga, c'est Carillon.
C'est Carillon. C'est le fort qui a été reconstruit de zéro. Là, il y a beaucoup d'animation. C'est l'antithèse de l'ancien fort Saint-Frédéric, de ce que c'est devenu.
J'ai déjà visité Carillon. C'est impressionnant.
Oui, c'est un endroit à voir, absolument.
Ouais, ouais.
Très peu connu.
Très peu connu, même des Québécois maintenant.
Tout à fait. C'est vraiment les Américains qui en profitent. Les Québécois passent tout droit pour aller à New York.
C'est ça.
Sans s'arrêter. Sans même se douter que ça existe, donc c'est encore pire. À Saint-Frédéric, Père Calme rencontre un officier militaire de carrière qui a œuvré un long moment dans le pays des Illinois, donc dans les Grands Lacs, et il raconte qu'il a vu la carcasse d'un éléphant. Il se rappelle que la trompe était pourrie dans un marais. Et évidemment, c'est les vestiges de ce qui serait un mammouth, selon toute vraisemblance. Il a vu ça et les Autochtones de la région ne savaient pas trop ce que c'était quand on leur a demandé. Et eux, ils se disaient ça devait être le maître de tous les castors. Donc, c'est vraiment... et Percam raconte que les ossements sont restés sur place, on ne les a pas récupérés. Donc, on n'a pas le fin mot de l'histoire.
Il faudra aller voir. Je ne sais pas si c'est comme le parc quartier Brébeuf que ça a été rempli de... Ça a été du remplissage, puis on trouverait juste des bouteilles de Pepsi.
Mais sur une carte, on voit l'emplacement. Il y a quelqu'un qui avait fait une carte et on voit l'endroit où le squelette a été trouvé.
Ah oui.
Calme arrive à Montréal en juillet. Donc, il arrive dans le cœur de la colonie. Il fait très chaud. Et là, il découvre un peuple neuf qui a à peine 100 ans d'existence. Il est très impressionné. Il raconte ce qui le marque vraiment. Et il note notamment l'extrême politesse dont il bénéficie, qui est à l'inverse de ce qu'il a connu dans les provinces anglaises qui allaient devenir les États-Unis. Mm-hmm. Il dit qu'il y a toute la différence entre le ciel et la terre, le blanc du noir, entre l'accueil chaleureux qu'il a eu au Canada et ce qu'il a connu au sud. Mm-hmm. Donc, de Montréal, il passe à Québec.
On est fin depuis longtemps.
Bien, on voit un peu l'espèce de comment dire...
Mentalité
sympathique.
État d'esprit,
oui, qui n'est pas très élitiste, qui est plutôt... c'est ça, chaleureux.
Tocqueville a remarqué un peu la même chose, après quoi, en 1831, 1800...
Dans son voyage au Canada, c'est ça, c'est comme une continuité.
Oui.
Ce qui est notable, c'est qu'on pourrait penser que c'est le propre des sociétés nouvelles, mais Calme, il voit vraiment une différence entre deux sociétés nouvelles qui rencontrent l'anglaise, de la nouvelle Angleterre, et la française du Nord. Donc, il note ça. Il arrive à Québec en août 1749. Il est reçu par le marquis de la Galissonnière, qui est un homme vraiment impressionnant. C'est un scientifique dans l'âme. Il s'intéresse à toutes sortes de choses. Et il le compare à l'évêque Pontbriand, qui n'est qu'un grossier paysan sans savoir vivre. Donc, il y a un contraste. Et... donc, il visite la capitale de la Nouvelle-France. On est seulement 10 ans avant le siège de Québec de 59, pendant lequel la ville va être rasée par les bombes britanniques du général Wolfe. Donc, on est vraiment à toute fin de la Nouvelle-France. Et encore une fois, à Québec, il rencontre un autre militaire qui lui raconte qu'il a vu une plaque couverte d'inscriptions qui rappelait la langue tartare à 3000 km à l'ouest de Québec, donc près des Rocheuses. Et là, ça intrigue vraiment Percam, et il note tout ça comme... évidemment, à l'époque, il y a une espèce de tendance chez les explorateurs de chercher une civilisation chrétienne passée qui serait disparue, qui aurait laissé des traces. Donc, on voit des croix un peu partout dans les pierres, dans la forêt. Donc, on cherche vraiment, mais évidemment, c'est ça. C'est tout simplement l'érosion qui avait créé ces traces-là, comme Percam l'a vu lui-même en revenant dans les provinces anglaises, en passant par le lac Champlain. Il a vu des colonnes de pierre qui semblaient vraiment surgies de nulle part, déposées là par une civilisation ancienne, alors que c'est tout simplement l'érosion qui peut créer cette illusion-là. Donc,
heureusement qu'il n'est pas allé aux îles Mingan.
Oui, en effet.
Oui. Il aurait dit, il y a quelqu'un qui a sculpté ça, ça n'a pas de bon sens.
Ou au rocher percé.
Oui.
Donc, c'est ça.
Était-tu percé à l'époque déjà?
Il était percé de deux trous.
Ah oui, OK. Oui, c'est vrai.
En 1846, que le premier trou s'est effondré, puis le deuxième va suivre dans quelques centaines d'années, sans doute.
Je referme la parenthèse
du rocher percé.
Oui.
Calme revient dans les provinces anglaises, donc à la fin de l'année 49, et il est resté en Nouvelle-France seulement 130 jours, mais il va tirer de ça un récit de voyage fascinant. Il a été édité en français dans les années 70, donc c'est à lire.
Ça mériterait d'être réédité, peut-être?
Oui, et peut-être purger aussi des passages qui concernent la botanique, parce que lui, c'est un botaniste à la base, Percam, donc il y a des longs segments où il décrit les plantes. C'est bien, mais en même temps, c'est un peu lourd. Là. Je pense qu'on pourrait en tirer un
mais petit en livre. Même temps, les botanistes trouveraient ça extraordinaire.
On pourrait faire deux livres, donc un pour
c'est
eux
ça.
Et l'autre pour un peu plus large public.
Maintenant, tu veux nous parler du dernier numéro de la revue Capodiamant?
Oui, qui est sorti récemment. Donc, Capodiamant, c'est la revue d'histoire fondée en 1985, qui est dirigée par Yves Beauregard. Le dernier numéro s'appelle tout simplement « Le Québec, nid d'espions communistes ». Là-dedans, il y a plusieurs textes intéressants, dont celui de Sylvain Lombroso sur Raymond Boyer. Donc, Raymond Boyer, qui est-il? C'est un bourgeois de Montréal. Il fait des études en chimie. Il est né en 1906 et il va rapidement étudier à Paris, à Vienne. Donc, il voyage beaucoup à une époque où on voyage un peu moins. Et à la fin des années 30, il écrit à un sous-ministre à Ottawa pour proposer son nom comme candidature pour représenter le Canada en URSS. Donc, il s'intéresse beaucoup à l'URSS avant la guerre, ce qui est un peu louche. Et par la suite, en 1940, il rencontre Anita Cohen, une femme d'origine juive de Montréal, qui le convainc de se convertir à la religion juive pour l'épouser. Et par elle, dans le fond, il rencontre Fred Rose, qui est qui est très connu, on va en parler plus tard un peu, qui tente de le convaincre de livrer, parce que lui, c'est un chimiste, donc il travaille sur un projet pour développer un super explosif qui succéderait au TNT. Ça s'appelle le RDX, donc il travaille là-dessus à Montréal, et Fred Rose veut le convaincre de livrer le RDX aux Russes, dans le contexte, c'est ça, de la guerre, parce que là, on est vraiment plus en 43, donc la Russie, le RSS est envahi par l'Allemagne nazie, donc Boyer veut vraiment s'impliquer pour aider les Soviétiques. Et donc, ses contacts avec Fred Rose finissent par être révélés et il va être enfermé à Saint-Vincent-de-Paul pendant 2 ans, de 1948 à 1950. Donc, c'est vraiment un premier espion pour le compte des Soviétiques.
C'est fascinant.
Dans le Québec de l'époque.
Et Rose, est-ce que ça a rapport à la famille Rose
ça vient de Fischel Rosenberg, de son vrai nom. Puis d'ailleurs, il y a un texte de Pierre Anctil, le professeur de l'Université d'Ottawa, sur ce personnage-là, qui est né en Pologne, qui arrive à Montréal en 1920, où il devient apprenti électricien. Et dans les années 30, il devient agent du NKVD. Et c'est ça, il est élu premier député communiste au Canada, mais dans le parti qu'on appelle le Parti ouvrier progressiste, dans la circonscription montréalaise de Cartier. Donc, premier député communiste en 43, réélu en 45, et ses activités vont être révélées dans le courant de un peu après la guerre. Il va devoir quitter le Canada en 53, et en 57, le gouvernement de Louis Saint-Laurent lui retire sa nationalité. Donc, il n'y a aucun lien avec la famille Rose qui va participer à la crise d'octobre de 1970.
Quitter le pouvoir maintenant, on fait cette série là, depuis plusieurs semaines, puis on est rendu à René Lévesque, donc dans les 100 dernières années, les premiers ministres qui ont dû quitter le pouvoir à un moment donné. Et là, c'est drôle parce que la semaine passée, on parlait du centenaire de la naissance de René Lévesque, puis tu disais presque qu'on parlait trop de René Lévesque.
Oui.
Et là, cette semaine, c'est toi qui es obligé d'en parler.
C'est ça, ben on est rendu là, donc on doit y passer. C'est ça, René Lévesque, pas besoin de présentation, il est au pouvoir de 1976 à 1985. Il annonce sa démission le 20 juin 1985, en fin de soirée, à 23h15, René Lévesque, à ce moment-là...
Est-ce que c'était pas un vendredi? Parce que je me souviens que dans ses mémoires, il raconte qu'il veut taquiner les journalistes puis les forcer à travailler un vendredi.
Il leur en veut un peu. Donc, il s'arrange pour faire son annonce sur une agence de presse en fin de soirée, après les bulletins de nouvelles. Et ça fonctionne. D'ailleurs, tout le monde est en panique. D'ailleurs, le reporter de Radio-Canada, Claude Desbiens, avec son caméraman, il file à l'Aquarium, qui était le restaurant... il y avait un bar à l'intérieur, donc dans lequel les politiciens se tenaient sur la rue Sainte-Anne.
Oui.
Et il rencontre Guy Chevrette, Bernard Landry, mais René Lévesque n'est pas là. Lui, il passe sa soirée seul dans son appartement de la rue d'Auteuil.
Oui.
Il fuit les médias c'est comme ça qu'il annonce son coup de théâtre. Les causes de son départ ont été expliquées par Martine Tremblay, son ancienne chef de cabinet, dans son fameux livre « Derrière les portes closes ».
C'est le meilleur.
Le meilleur qu'on peut trouver.
Le meilleur livre,
tout à fait. Elle rappelle qu'il souffrait de fatigue à compter de l'automne 84, que d'ailleurs, à la séance du 17 décembre au Salon Bleu, il avait éteint sa cigarette dans le verre d'eau de son voisin de pupitre. Et il était vraiment un peu... il n'était plus tout à fait là. Mm-hmm. Et en janvier 85, il est soigné à l'Enfant Jésus. On l'amène un peu de force parce qu'il veut... René Lévesque ne prenait pas soin de sa santé, il fuyait les médecins, alors qu'il en avait plusieurs dans son cabinet, des députés, des ministres médecins. Donc, c'est ça, il va pas très bien. Et surtout, le parti non plus ne va pas très bien. Le PQ perd 4 partiels le 3 juin, les partiels qui étaient rendus nécessaires par le départ de Parizeau, Lazur, Vaugeois et Camille Lorrain. Donc, ça va pas bien du tout.
C'est du lourd.
C'est ça.
Quand tu perds ces personnages-là, c'est que ça allait vraiment pas bien. Bon, il faut rappeler que René Lévesque voulait comme mettre la souveraineté sous le boisseau.
Oui, on était en plein dans le beau risque où là, on voulait donner une chance au gouvernement conservateur fédéral de Brian Mulroney. Ça causait beaucoup de départs. À l'été 85, donc, c'est ça, son départ est annoncé. On est dans la course à la succession. Lui, il pousse sa protégée Francine Lalonde pour qu'elle se présente à sa succession, mais elle ne veut pas y aller. Donc, ça alimente son désintérêt pour la course. Et lui, pendant l'été 85, il va faire du tourisme. Il va visiter la prison d'Alcatraz. alors qu'il sort d'une prison politique, en quelque sorte.
Oui.
Il va voir là-bas. Et c'est ça, à la mi-août, il est toujours premier ministre. Il reçoit le nouvel ambassadeur du Canada à Paris, un certain Lucien Bouchard, au lac à l'épaule. Donc, René Lévesque demeurait attaché au lac à l'épaule. Et Lucien Bouchard nous a raconté à mon collègue Marco Belair-Cyrino et moi comment ça s'était passé. Lucien Bouchard arrive au chalet, ce fameux chalet du parc des Laurentides. René Lévesque émerge du lac, le reçoit, il joue aux cartes.
Il se baignait?
Oui, il se baignait dans le lac. Oui. Et c'est ça, et en soirée.
Tu as un extrait sonore de
Lucien
Bouchard?
J'ai pas d'extrait sonore, non, malheureusement.
OK.
Mais c'est ça. Et René Lévesque, en soirée, lui racontait ses souvenirs du chalet. Donc, c'était vraiment un bon moment pour lui. Et Lévesque, vraiment, il va prendre Lucien Bouchard sous son aile en lui disant va à Paris, fais ce qu'il faut. Puis, alors qu'il court-circuitait un peu le délégué général du Québec à Paris en communiquant directement comme ça avec l'ambassadeur du Canada.
Qui était qui à l'époque? Est-ce que c'était Michaud ou Louise Baudouin?
Il faudrait revoir, oui. Okay. Pour ce qui est du départ donc, de René Lévesque, c'est ça, la chefferie se termine avec la victoire de Pierre-Marc Johnson, le fils de l'ancien premier ministre. Il l'emporte avec près de 60 % des voix devant Pauline Marois, qui en reçoit seulement 20, qui termine deuxième. Et là, c'est les soirées hommages qui s'enchaînent. La fameuse soirée du 27 septembre à Montréal, où là, on donne à René Lévesque, le Parti québécois donne à René Lévesque une carte de voyage illimitée en avion. Et c'est là qu'il déclare, je crois avoir saisi le message, ne partez pas sans elle, M. Lévesque, mais partez, par exemple. Et puis, c'est ça, donc la transition des pouvoirs avec Johnson se fait du 30 septembre au 3 octobre. Là, on transfère les dossiers. Et selon Martine Tremblay, Daniel Johnson aurait espéré qu'il y ait un peu plus de chaleur dans ce transfert-là.
Ah oui.
Johnson aurait aimé ça que Lévesque soit plus près de lui, mais ça n'est jamais vraiment produit. Et donc, ça se termine aussi, c'est ça, le 2 octobre 85, on a une soirée René Lévesque sur le gris, où là, c'est une espèce de bien cuit avec 1500 convives. Et à la fin du repas, on lui remet une toile de Bordua évaluée à 25 000 $ 60 000 $ en dollars d'aujourd'hui. Donc ça m'a un peu étonné.
Fascinant.
Et c'est ça. Donc, 3 octobre, c'est Johnson prête serment devant le lieutenant-gouverneur du Québec. René Lévesque, lui, s'allume une cigarette un peu par réflexe à ce moment-là. Et il s'éclipse rapidement. Et par la suite, c'est ça, dans sa carrière, dans son après-carrière, il va publier son autobiographie « Attendez que je me souvienne » ou « Que je me rappelle ».«
Attendez que je me rappelle ».«
Attendez que je me rappelle », oui, c'est ça. Et qui va être un succès de librairie.
Pierre Bourgault va répondre quelques années plus tard « Moi, je m'en souviens ».
Oui, c'est ça, exact. Il est chroniqueur au Journal de Montréal, il collabore à CKC.
Oui.
Et finalement, il décède le 1er novembre 1987 à l'âge de 65 ans seulement.
Ah oui, 65 ans. C'est plus jeune que ce que je pensais. Et on va écouter maintenant Bernard de Rome de Radio-Canada qui présente les obsèques de René Lévesque quelques jours après sa mort.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Les Québécois ont accompagné René Lévesque jusqu'à la fin avec le même respect, la même sincérité, la même émotion qu'ils n'ont cessé de lui manifester depuis dimanche soir. Ils l'ont accompagné de l'Assemblée nationale où il a passé près du tiers de sa vie jusqu'à la Basilique Notre-Dame de Québec où s'est déroulée une cérémonie religieuse solennelle mais quand même empreinte de sobriété.
Bien, merci beaucoup, Dave Noël.
Merci, Antoine.
Et on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique « Les actualités de l'histoire ».
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires!
grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
C'est mardi, mais exceptionnellement, c'est jour de chronique consti.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Mais bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine Robitaille.
Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Deux sujets aujourd'hui. Jour de grève, une crise majeure dans le système de justice. Puis le deuxième sujet, bien, on revient sur le projet de loi 96 qui va être voté aujourd'hui. Donc, on revient sur les possibles contestations de cette loi-là. Donc, commençons par la crise majeure. On parle de grève, de pénurie, de menaces dans le système de justice.
Oui, l'automne va être chaud. Il y a des problèmes dont on se préoccupe peu depuis longtemps, mais qui semblent tous s'aggraver soudainement et qui, conjugués ou additionnés les uns aux autres, risquent de plonger notre système judiciaire dans une crise importante. Donc aujourd'hui, on a un peu un avant-goût de ce qui nous attend avec une grève des avocats de l'aide juridique, c'est-à-dire des avocats qui, de manière permanente, plaident devant les tribunaux des causes pour les personnes les plus pauvres de la société, les plus vulnérables.
Le premier métier de Jean Charest.
Je ne sais pas si c'était à l'aide juridique. Ah oui. Ah, ben, très bien. Ben, c'est une excellente école, puis c'est une pratique où on se sent souvent très utile, parce que ces gens-là, sinon, n'auraient pas une défense pleine et entière, que ce soit où on pense souvent aux criminels, mais aussi aux civils, dans plein de dossiers. Donc, les avocats à l'aide juridique font beaucoup de volume. Hein. Ils font un grand nombre de dossiers et ils plaident souvent. Et ils demandent la parité avec les procureurs de la couronne, donc les avocats qui, eux, plaident pour l'État contre les accusés. C'est un peu la même chose qu'on avait eu dans cette longue grève des juristes de l'État.
Eh oui.
Comme si l'État est prêt à payer un peu plus cher ses procureurs de la couronne, ceux qui plaident devant les tribunaux souvent, mais pas les autres juristes. D'ailleurs, leur litige, ça a été terminé par une loi spéciale, mais qui imposait seulement un retour au travail, sans imposer les conditions de travail. Et à ma connaissance, c'est toujours pas réglé. C'est encore devant les tribunaux. Mais bref, les avocats de l'aide juridique qui disent, ben nous aussi, on a le droit à des meilleures conditions de travail. Mais surtout, une pénurie assez bien documentée, une pénurie du personnel judiciaire. Greffiers, greffières, les techniciens, tous les autres employés, autres que les juges et les avocats, dans les salles de cours. Évidemment, on manque pas de candidats au poste de juge. On manque peut-être de juges, mais on manque pas de gens qui veulent devenir juges. On manque pas d'avocats au Québec parce qu'il y a plus de 28 000 membres du barreau.
Bon.
Mais des greffiers, des adjoints à la magistrature, des huissiers, des techniciens juridiques, ça, on en manque.
Est-ce qu'il y a des diplômés de droit là-dedans, Patrick?
Ben, beaucoup de techniciens juridiques. Beaucoup de gens qui sont issus des programmes de technique juridique au niveau collégial.
Mais c'est pas tes étudiants, là?
Généralement pas, non.
Non, c'est ça.
Mais les salaires, c'est pas pour rien qu'il y a une pénurie, là.
Oui.
35 à 45 000 $ par année. 45 000 $ au dernier échelon de la carrière.
C'est fou.
C'est pas compliqué. Le même emploi dans une cour municipale. Oui. Qui ont une offre municipale, ben c'est réglé. Être adjoint ou adjointe à un juge ou secrétaire, ben vous allez avoir une offre du privé qui va arriver avec un montant qui est pas du tout comparable. Donc, il y a une réelle pénurie.
Au municipal, c'est beaucoup mieux payé?
J'ai pas les chiffres, mais c'est mieux payé. Okay. Oui, tout à fait. Et donc, parce qu'il y a une liberté, il fait que les salaires qui ont pas...
C'est comme les fonctionnaires fédéraux. Je veux dire,
exactement.
Du Québec, par rapport aux fonctionnaires des municipalités. Les fonctionnaires municipalités sont beaucoup mieux payés.
Québec est moins bien payé. Puis Ottawa, les fonctionnaires à Ottawa et les fonctionnaires municipaux
fédéraux,
sont davantage.
Ouais. C'est ça.
Conséquence, ben, on s'en va vers une rupture de service.
Carrément.
Plus de délais. Et quand vous reportez une audition parce qu'il n'y a pas de greffier, ben ça, c'est un délai qui est imputable à l'État. Donc, c'est un délai qui compte dans le calcul du délai qu'on appelle de l'arrêt Jordan. Un
délai qui s'applique. Oui, l'arrêt Jordan, c'est le...
fameux arrêt de la Cour suprême sur les délais excessifs.
Oui, et donc, vous avez un délai...
qui a fixé des plafonds, là.
Exactement. Il y a une présomption qu'un accusé doit être jugé à l'intérieur d'un certain délai, mais c'est une présomption. Quand les délais sont causés par l'accusé lui-même, ben, on peut s'arranger. Mais s'il manque de personnel dans le tribunal, puis qu'on reporte une audition d'un mois, ça, c'est absolument un délai qui va jouer en faveur d'une libération, d'un arrêt de procédure.
Mais là, il y a des exemples clairs, hein?
Exactement. Le bureau d'enquête du journal de Montréal et de Québec révélait plusieurs exemples, entre autres une femme accusée d'une fraude de 750 000 $. Elle attendait sa sentence. Puis finalement, il n'y avait pas de greffier, pas de greffière. On a tout simplement reporté. Elle aura peut-être un mois, deux mois de liberté supplémentaire. Donc, des exemples de ce type, ils commencent à...
Puis l'effet Jordan risque de se faire sentir.
Ben, dans ce cas de ce dossier-là, je pense que pour la sentence, peut-être qu'elle va éviter...
OK, c'est juste la sentence.
Okay. Oui, mais il pourrait y avoir d'autres cas. Effectivement, si on attend une audience pour trancher le fond de l'affaire, c'est des dossiers où l'effet Jordan va se faire sentir. Il ne faut pas oublier, ça aussi, c'est bien documenté dans l'enquête du bureau du journal de Montréal et de Québec, qu'il y a un effet Jordan qui amène tout le monde à prioriser les dossiers de droit criminel, mais à délaisser les dossiers de civil.
Aïe, aïe, aïe.
Et toujours la même enquête nous montrait qu'il y a 4 ans, lors de la dernière élection, en 2018, c'était en moyenne 223 jours pour avoir une audition au civil dans un dossier de petite créance. Mais dossier de petite créance, c'est quand même rendu des litiges importants puis du gros volume.
Ben oui.
Maintenant, ce 223 jours moyen s'est rendu 593 jours en moyenne.
C'est énorme, hein?
Mais c'est pas tout. Le nombre de dossiers a diminué. On est passé d'à peu près 20 000 dossiers à 15 000 dossiers par année pour la Cour des petites créances.
Donc, il y a moins de litiges.
Il y a moins de litiges. Peut-être l'effet pandémie, je ne sais pas.
Est-ce que ça pourrait être l'effet de la réforme du Code de procédure civile qui a vraiment dirigé les gens vers des conférences de règlement à l'amiable?
Espérons-le. Probablement l'addition de plusieurs causes. Mais ce qui est fascinant, c'est que...
Malgré.
Oh, oui, c'est ça. On a un quart de dossiers de moins aux petites créances. Mais ça nous prend quand même presque 3 fois plus de jours pour avoir une audition.
Aïe, aïe, aïe.
Et là, ça montre que le système est tourné vers le chronomètre Jordan en droit criminel.
Ah oui.
Et que là, on délaisse les dossiers civils. Et c'est pas tout.
C'est pas tout.
Il y a des grèves, des pénuries, mais il y a aussi une menace qui plane. On en a déjà parlé à ce micro.
Oui.
La juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, elle fait pression sur le gouvernement du Québec depuis des mois, avec une menace assez claire. À partir de septembre, mes juges, qui siègent en ce moment 2 jours sur 3, donc la troisième journée, là, c'est pas congé, là. Ils ont des jugements à écrire, les jugements sont de plus en plus longs à écrire. Fait que là, ils siégeaient en audition 2 jours sur 3. Dorénavant, à partir de septembre, elle va les faire siéger 1 jour sur 2. Qu'est-ce qu'elle exige derrière ce moyen
pourquoi?
De pression,
ouais,
cette
pourquoi?
Grève du zèle? Ben, elle veut 41 postes supplémentaires. La Cour du Québec, c'est 319 juges. Là, vous en ajoutez 41, c'est quand même une hausse importante. On dit que les dossiers sont de plus en plus complexes, les jugements sont de plus en plus longs. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus longs à écrire.
Oui.
C'est pas obligé qu'il en soit ainsi, mais c'est comme une tendance.
Ça serait au juge de faire un peu de restriction?
Ben, peut-être, mais chose certaine, on pense qu'avec plus de juges, on pourrait libérer plus de temps pour les juges pour permettre d'écrire leurs longues décisions. Et donc, on exige 41 juges supplémentaires. Ou sinon, on pratiquera cette grève du zèle, parce que c'est ça dont il s'agit, hein. À partir du moment où on dit, avant, on siégeait 2 jours sur 3, dorénavant, on siège 1 jour sur 2, on est dans une forme de grève du zèle. Une grève, d'ailleurs, pas nécessairement compatible avec certains devoirs déontologiques.
Oh.
Mais bon, ça, c'est les juges entre eux qui trancheront si c'est éthiquement et déontologiquement
responsable. Non, mais la position du prof Taillon nous intéresse.
Ben, écoutez, comme juge, ils ont des devoirs pour que le système de justice fonctionne, notamment avec toutes ces questions de délai en matière criminelle. Si les juges de la Cour du Québec siègent moins, bien, c'est certain qu'il va y avoir des arrêts de procédure, donc des accusés dans des dossiers très lourds qui n'auront n'auront pas leur procès.
Il doit y avoir des juges qui n'aiment pas cette stratégie-là.
Probablement, mais oublions pas. Là.
Ils peuvent nous appeler, d'ailleurs.
Hein? Sur le plan...
On est toujours ouvert. Oui. Comme moi, ils peuvent m'appeler, pas de problème.
Sur le plan du principe de retenue aussi à l'endroit du pouvoir politique,
ouais.
Ben, la menace de la juge Rondeau, elle commence à s'activer quand? En septembre, en pleine élection générale. C'est un coup stratégique.
On sait à quel point elle est à couteau tiré avec le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette.
Bien, chose certaine...
Est-ce que c'est encore c'est un autre avatar de cette querelle?
C'est certainement un épisode de la saga.
Ouais.
Mais chose certaine, en disant « on passe à l'action en septembre », cette quasi-grève, en tout cas cette forme de grève du zèle, cette menace, ce moyen de pression, elle va forcer un débat, elle va forcer la question de la réforme du système de justice à s'inviter durant l'élection. Ce qui réjouit probablement tous ceux qui espèrent que le système soit amélioré, mais qui pose quand même des questions sur ce sens politique qu'a la Cour du Québec. On peut pas dire que c'est pas politiquement neutre d'exercer des moyens de pression à un moment où, dans le débat public, on a une élection et que tous les partis vont devoir se prononcer. À terme, on se retrouve avec un système de justice qui est à réformer puis qui est pas différent du système de santé.
Mmh.
Hein, d'un
côté, il y a des parallèles qu'on peut faire entre le traitement très généreux à l'égard des médecins oui. spécialistes, et le traitement très généreux à l'égard des juges. Tu le disais tout à l'heure, là, les petits employés, le petit personnel des cours sont payés comme...
À 35 000 à 45 000 $ au maximum. Mm. Et vous avez les juges des cours de la Cour du Québec. Donc ça, c'est les juges qui relèvent de la compétence du Québec. 310 000 $ par année à partir de juillet prochain. Un rattrapage de 22 % dans les 4 dernières années.
Ouais.
Notamment parce que des juges ont rendu des décisions sur la rémunération des autres juges.
Ouh.
Où ils ont dit « indépendance judiciaire implique sécurité salariale ».
Oui.
Et ça doit faire l'objet
de recommandations. Il faut être gratiné 4 fromages.
Exactement. Il faut, faut traiter la question salariale avec beaucoup de prudence. Or, on voit qu'on n'a pas la même considération pour le reste du personnel. Et là, on voit un parallèle avec la réforme de la santé.
Oui.
Où on a vraiment investi des ressources énormes vers les médecins. Puis on a un petit peu oublié le problème de recrutement et de pénurie chez les infirmières et on s'est retrouvé dans l'impasse qu'on connaît. On dirait qu'on a le même standard avec le système de justice.
Il y a mon ancien collègue Robert Dutrisac qui avait un excellent éditorial dans Le Devoir ce matin, les juges bichonnés.
Oui, et il maîtrise probablement mieux les calculs mathématiques que moi. Il disait dans son papier que avec le 20 millions d'augmentation salariale destinée aux juges de cette année.
Oui.
Cette année, ça coûte à l'État québécois 20 millions là, qu'on donne aux juges de la Cour du Québec.
Bang.
On prend ce 20 millions-là, on l'envoie aux 2000 employés qui forment le personnel juridique de tous les palais de justice du Québec, 2000 employés, et soudainement, on augmenterait leur salaire de 25 %.
Aïe,
donc, il y a des choix qui sont faits, et c'est pas différent de bien des choses en politique. Pour nos élus, c'est toujours plus intéressant d'annoncer la construction d'une nouvelle route que d'annoncer la rénovation d'une vieille route.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on assiste dans le système de justice dans les dernières années? Des réformes courageuses où on annonce un tribunal spécial pour les violences sexuelles, une réforme du droit de la famille. On annonce des nouvelles routes, des nouvelles affaires. Mais le fonctionnement de base, l'entretien de nos routes, le fait qu'on en prend soin puis que ces routes-là fonctionnent, donc le personnel judiciaire de base, nos avocats à la commission de l'aide juridique, ces choses-là, on dirait que c'est plus difficile d'avancer sur ces fronts-là. Face à ces problèmes de pénurie, le ministre de la Justice propose de siéger soir et fin de semaine. Je comprends la logique. Son raisonnement, en tout cas dans une déclaration écrite qu'il a fait la semaine dernière, c'est que le retard actuel serait majoritairement attribuable à la pandémie et qu'il faudrait comme donner un coup soir et fin de semaine pour s'en sortir. N'empêche qu'il y a comme tout un décalage entre la juge en chef qui nous dit « il faut siéger moins et nommer plus de juges » et le ministre de la Justice qui dit « non, 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 faisons une corvée. »
Et des juges bilingues.
Et des juges bilingues aussi. Donc, c'est loin elle d'être réglé, dire... mais ouais. J'ai l'impression que le débat électoral va peut-être être un peu saisi de cette question du système de justice.
Prenons quelques minutes pour revenir sur le projet de loi 96 qui va être voté aujourd'hui en Chambre selon toute vraisemblance. Après le vote de la loi, tu écris qu'il faudra penser au service après-vente. C'est quoi le service après-vente?
Ben,
une loi comme la loi 96 sur la Charte de la langue française?
Il a plusieurs aspects. Il y a un aspect formel et juridique. Hein, dans la loi, on voit constamment qu'il faut adopter des règlements d'application,
oui,
des directives internes. Et ça, ça va vraiment définir bien des aspects de la loi. Mais aussi sur le plan politique, le service après-vente, c'est aussi quelque chose qui a parfois manqué pour la loi 21. Je dirais, c'est pas juste parce qu'une fois la loi adoptée, il faut consolider et forger le consensus autour, mm-hmm, de cette loi. Dans le cas du dossier linguistique, forger une nouvelle paix linguistique. Durant, ouais, les dernières semaines, on a entendu bien des opposants à la loi, le projet de loi 96,
mm-hmm,
qui critiquaient non seulement le projet de loi 96, mais critiquaient carrément, radicalement, toutes nos lois linguistiques.
Oui, c'est ça. Ils revenaient même sur le principe de la Charte de la langue française.
À les écouter, c'est pas juste le projet de loi qui est problématique, c'est toutes les lois du Québec en matière linguistique. Donc, la paix linguistique qui avait ses avantages et ses inconvénients, mais qu'on a connu dans les dernières décennies, elle est à rebâtir. Et ça fait partie du service après-vente. D'un point de vue politique, il faudra voir aussi si le vote défavorable du Parti libéral et du Parti québécois là, va avoir...
Et j'ajouterais du Parti conservateur. Claire Samson va voter contre. Oui, elle l'a dit ce matin. Et elle a dit que la loi 96 n'avait aucun rapport avec son rapport sur la langue française, Claire Samson. Donc, déposé il y a quelques années, ce qui est faux, parce qu'il y a énormément de parallèles qu'on peut faire. Mais je ferme cette parenthèse sur le Parti conservateur.
Bien, à quelque part, il va falloir créer un consensus transpartisan aussi, comme il y en a eu un autour du fait qu'il ne fallait pas rouvrir la loi 101, même si les partis d'opposition votent contre. Bien, le service après-vente, ça va être aussi là, de construire cette paix linguistique à l'endroit de ses forces politiques.
Il y a Québec solidaire qui appuie le projet de loi officiellement, malgré plusieurs réticences.
Oui, mais c'est fascinant, cette position de Québec solidaire, parce qu'ils ont réussi ou ils ont tenté de maintenir une ligne qui, à mon avis, est de moins en moins tenable, selon laquelle il y aurait une énorme différence entre déroger aux droits et libertés, restreindre les libertés individuelles dans le projet de loi 96 versus dans la loi 21.
Mmh.
Conceptuellement, si on prend le discours sur le racisme systémique au sérieux, et je crois qu'à Québec solidaire, on prend ce discours au sérieux, ça va devenir de plus en plus difficile de dire « la loi 21 contribue au racisme systémique car elle est un obstacle à l'inclusion de certaines minorités », et de ne pas dire que c'est la même chose pour la loi 101. Mmh. Et je soupçonne qu'on est peut-être 21 en désaccord
ou 101?
Là-dessus.
21 ou 101?
21 et 101 sont toutes les deux des lois qui peuvent nourrir l'argumentaire de ceux qui voient du racisme systémique. Je sais que les députés de Québec solidaire puis un certain nombre de gens au Québec tiennent à faire une différence entre les deux, et il y en a, on pourrait les souligner, mais il n'empêche que dans les deux cas, si est du racisme systémique, tout obstacle, voulu ou pas voulu, qui a un effet de créer des barrières à l'emploi, une barrière, attention, là, quelque chose qui contribue à rendre plus difficile l'accès à, ben il faut être obligé d'admettre que ça contribue. Donc, pour Québec solidaire, éventuellement, pour le moment, ils ont réussi à dire non, c'est pas pareil. La langue et le port de signes religieux, c'est deux affaires différentes et ils ont une position radicalement différente sur l'un et sur l'autre.
Ouais.
Mais ma question, c'est pour combien de temps? Et ça va être à suivre.
Moi, la question que je pose à Québec solidaire, c'est pourquoi ne pas écouter les syndiqués, les professeurs syndiqués dans les 31 cégeps du Québec qui réclament l'application de la loi 101 au niveau collégial.
Oui, hein? c'est
et
aussi...
Et ce sont des syndiqués, là, je le rappelle, à Québec solidaire, qui souvent trouvent que les syndiqués ont toujours raison. Mais là, non, les grandes centrales, elles, se taisent là-dessus. Donc, on n'écoute pas la base, les syndiqués. Je trouve ça surprenant, à tout le moins. Les contestations, rapidement, il nous reste 2 minutes.
Ben, il y a des contestations qui se préparent, on y reviendra, mais première chose qu'il faudra suivre, on se rappelle que pour la loi 101, ça s'est fait morceau par morceau. C'était la stratégie un peu gruger la loi 101, litige après litige.
Ça a marché.
On a vu pour la loi 21...
C'est pour ça qu'on a parlé de la loi 101 comme un gruyère.
Oui, et j'ai l'impression que, comme pour la loi 21, ça va être différent ici. Qu'on va y aller un peu plus avec des contestations mur à mur.
Ah. Où là, très rapidement, vous allez avoir un genre d'empressement de plusieurs groupes d'avocats et de groupes de la société qui vont essayer de lancer le recours qui englobe le plus de motifs de contestation. Une contestation frontale du recours à la dérogation, puis aussi une contestation là, du contenu du projet de loi, mesure par mesure. Je suis pas sûr que c'est la bonne stratégie, mais il y a comme une course, parce que ce recours, il sera nécessairement, en tout cas, fort probablement subventionné par des fonds fédéraux via... Ouais. Le fameux programme de contestation judiciaire.
Mais il faudra trouver les victimes, entre guillemets, qui ont intérêt pour agir.
Exactement. Donc, je ne doute pas des convictions de ceux qui vont contester le projet de loi, mais non seulement ils ont des convictions, mais en plus, ils auront un financement convenable
fédéral.
Via ce programme-là. Donc là, il y a une course contre la montre pour qui va monter le recours le plus sérieux pour aller chercher ces fonds du programme fédéral. Et là, c'est ça qui va jouer. Est-ce qu'à force de vouloir contester trop vite la loi, est-ce que les opposants vont négliger la question de l'interagir que tu soulèves? Parce que dans notre système, il faut contester avec quelqu'un qui est vraiment concerné. Donc, si on prétend qu'il n'y a plus de services de santé en anglais, il va falloir en trouver un patient.
Quelqu'un qui se plaint.
Il n'a pas eu les services. Moi, je pense qu'on ne le trouvera jamais, ce patient. il va falloir le trouver, l'immigrant qui, après 6 mois, est privé de services.
De façon inhumaine. Faire demander de parler français.
Et qu'on interprète mal les exceptions santé, sécurité et justice.
Il y a plein d'exceptions.
Donc, il va falloir le trouver, le policier de la langue qui procédera à une enquête abusive. C'est une chose de prétendre que la loi va là, mais dans notre système de justice, il faut trouver un cas concret. Et ça, pour les contestataires, il y a cette course contre la montre pour toucher les fonds fédéraux, mais il y a aussi la course contre la montre pour trouver le cas. Et ce cas-là, il sera pas toujours simple à trouver.
Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
Merci.
Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.